Alors merci d'être venu pour soutenir la liste de lutte ouvrière faire entendre le temps des travailleurs. Alors ben, cette liste, oui, c'est une liste de travailleurs. Je vais présenter la tribune et dire quels sont les représentants des départements et puis la tête de liste de la région. Alors à ma droite se trouve Jean-Jacques Lacarrère, qui conduit la liste en Creuse. Marie-Thérèse Coineau, qui conduit la liste en Corrèze. Donc, moi-même, je conduis la liste en Haute-Vienne, Elisabeth Coton. Et donc, pour finir, Guillaume Percher, qui est tête de liste sur la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Alors voilà, la liste lutte ouvrière, il y a des postiers, des infirmières, des enseignants, des employés, des ouvriers, des chômeurs, des retraités. Voilà, c'est notre liste, elle représente vraiment le monde du travail. Hein, et c'est la seule liste pour laquelle chaque vote sera vraiment sans ambiguïté aucune contre la mise au pas, l'embrigadement derrière l'Union nationale, qui vise en ce moment à museler toute contestation de la politique du gouvernement et de la dictature de la bourgeoisie, qui chaque jour dégrade un peu plus nos conditions de travail et de vie. Alors le vote lutte ouvrière, ça sera un vote de classe, un vote de ceux des travailleurs conscients qui ne se résignent pas et qui veulent mettre fin à cette société inhumaine. Alors pour développer tous ces aspects, le plus simple c'est que je passe la parole à Guillaume Percher.
Bon, merci. Alors, je vais commencer par les attentats, puisque vous savez que en tout cas, la situation politique, elle a été profondément modifiée depuis le 13 novembre. Alors, je reviendrai un petit peu plus loin sur les attentats, mais déjà, là, ce qui est notable dans la nouvelle situation politique, c'est l'unité nationale. Le gouvernement, Hollande, la droite et l'extrême droite se sont tous unis dans l'unité nationale, et en fait c'est pour nous imposer leur politique guerrière, sans contestation aucune. Pourtant, quand on regarde le passé, les événements, ce sont eux qui ont une large part de responsabilité dans les guerres qui ensanglantent le Moyen-Orient, et qui nous rattrapent maintenant ici. Ces guerres, elles visent, sur le fond, à maintenir la position, le rang de l'impérialisme français dans le monde, dans son droit à la curée des grandes puissances sur les pays pauvres, dans le pillage que ces grandes puissances exercent sur toute la planète depuis des décennies. Ces guerres, sur le fond, depuis des dizaines d'années, ce sont les positions de Total, d'Areva, de Bolloré qu'elles défendent. Eh bien, avec l'unité nationale, on nous fait le chantage suivant. Où vous êtes avec l'État et sa politique guerrière, et en fait, avec la défense des intérêts de l'impérialisme français, où vous êtes avec les terroristes. Eh bien nous, on a à la fois condamné les terroristes pour les barbares qu'ils sont, mais aussi notre propre gouvernement, dont la politique fait le lit du terrorisme. Nous n'avons aucune solidarité avec l'État français et avec ses dirigeants politiques. Nous ne partageons rien avec les Hollande, les Sarkozy et les Le Pen. C'est eux qui ont décidé des guerres qui ensanglantent aujourd'hui le Moyen-Orient et qui nous rattrapent maintenant ici. Et c'est pourquoi nous n'avons pas ajouté notre voix à l'unité nationale. Et si on prend un peu de recul, qu'on juge un peu leur politique, leur guerre qui mène au nom de la lutte contre le terrorisme depuis 14 ans. Vous savez, il y a 14 ans, c'était au moment des attentats du World Trade Center. Et à ce moment-là, avant que l'Amérique déclenche sa guerre contre le terrorisme, il y avait un ou deux foyers terroristes sur la planète. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, après la destruction de l'Irak, après la destruction de la Libye, après l'occupation de l'Afghanistan, après les interventions répétées en Afrique, et bien des foyers terroristes, il y en a des dizaines, un peu partout sur la planète. Alors si ce sont des pompiers, et bien ce sont des pompiers pyromanes. Alors après les attentats, la solution maintenant qu'ils envisagent pour stabiliser la Syrie, ça consiste à s'appuyer sur le régime féroce de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, c'est le dictateur qui a attaqué son peuple à l'arme chimique, qui a tué, fait disparaître des dizaines de milliers d'opposants. En agissant ainsi, ce n'est pas à la victoire contre le terrorisme qu'ils nous mènent, mais à une société encore plus barbare. Encore une fois, ils sont en train de poser des bombes à retardement dans une région qui explose déjà de toutes parts. Quant aux bombes occidentales, qui sont larguées des avions, des rafales de Dassault, on nous dit qu'elles visent des centres d'entraînement de Daesh. Mais en fait, elles sont tombées sur des villes peuplées de civils, et des grandes villes, des villes de centaines de milliers d'habitants. Et dans ces villes, il n'y a que les pauvres qui restent, parce que eux n'ont pas eu les moyens de s'enfuir. Alors qui peut croire que ces bombes, elles ne font pas, elles aussi, des dizaines, des centaines, des milliers de victimes innocentes? Alors non, la guerre des grandes puissances n'éradiquera pas le terrorisme, au contraire, elle l'alimentera, une fois de plus, en nous enfonçant dans un engrenage de plus en plus sanglant. Le terrorisme est le fruit pourri de l'impérialisme. On ne peut pas combattre l'un sans l'autre. Alors l'autre aspect, c'est l'unité nationale, la cérémonie aux Invalides, le drapeau bleu-blanc-rouge aux fenêtres. Hollande, la droite et le FN ont voulu récupérer, instrumentaliser l'émotion collective légitime de la population. Et pour éviter toute critique sur sa droite, Hollande n'a pas hésité à reprendre et à appliquer, dans les faits, la plus grande partie du programme du FN. Fini le cinéma sur le FN ennemi de la République. Au contraire, mais il a repris et appliqué son programme. Et tous, en chœur, dans une belle unanimité à l'Assemblée nationale, au Sénat, du FN au PCF, ils nous ont imposé leur politique sécuritaire avec un état d'urgence de 3 mois. Et rien ne dit que cet état d'urgence ne sera pas prolongé encore et encore, parce que dans 3 mois, on nous dira que la guerre en Syrie, elle n'est pas finie. L'état d'urgence, sur le fond, ça ne réglera rien. Parce qu'en fait, c'est fait, c'est organisé, pour faire croire que le gouvernement fait quelque chose. En fait, le gouvernement, il ne peut pas grand-chose. Parce que les racines du problème, on l'a vu, elles sont bien plus profondes que cela. L'état d'urgence, ce sont des gesticulations pour frapper l'opinion publique, pour impressionner l'opinion publique. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que l'état d'urgence, ça alimente le cours xénophobe, raciste et le retour en arrière sur l'état d'idées. Les policiers, par exemple, s'en sont donnés à cœur joie. Sur les centaines de perquisitions, de portes défoncées, 2000 perquisitions à ce jour-là, donc depuis 15 jours, des familles terrorisées à 6 heures du matin, combien étaient justifiées par un début de preuve de terrorisme? Combien ont-elles simplement été décidées au faciès, parce que le père de famille avait la barbe un peu plus longue que les autres? La conséquence, c'est qu'au lieu de combattre les divisions, au lieu de combattre la peur et le racisme, ben cela cultive la méfiance, le repli sur soi et le rejet de l'autre. Ces mesures ne seront pas seulement inefficaces contre le terrorisme, mais elles vont renforcer l'extrême droite. Elles vont aggraver le climat nauséabond qui préexistait aux attentats, où déjà il y avait de petits groupes d'extrême droite qui s'attaquaient aux migrants, où les identitaires d'extrême droite s'agitaient y compris contre l'extrême gauche. Et demain les mêmes, ces petits groupes-là, s'en prendront peut-être à nos camarades de travail, aux membres de nos familles, à nos amis, parce qu'ils sont étrangers ou suspectés de l'être par leur nom, leur couleur de peau ou leur signe religieux. Et puis l'état d'urgence, en fait, il est d'ores et déjà utilisé contre tous ceux qui veulent s'opposer et manifester contre le gouvernement. Il est notable qu'une des premières interdictions a frappé la manifestation de soutien aux migrants le 22 novembre. Et les migrants, c'est d'autres victimes de Daesh. La semaine dernière, des militants d'extrême gauche, des anarchistes notamment, ont été perquisitionnés en Dordogne. Parce que, il y a 2 ans, ils avaient distribué des tracts contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et puis ce week-end, vous avez vu les opposants au cinéma de la COP21, ils ont été frappés d'assignation à résidence, leurs manifestations pacifiques ont été interdites et puis réprimées. Alors, Tout cela, l'état d'urgence et toutes les mesures prises par le gouvernement, ça alimente en fait le cours réactionnaire pris par la société. Alors nous, on dit qu'il faut refuser ce cours réactionnaire et guerrier, caché derrière l'unité nationale, le drapeau tricolore et la Marseillaise. Et il ne faut pas croire que le gouvernement qui nous mène la guerre sociale en permanence nous protégera de quoi que ce soit. L'état d'urgence est une arme entre les mains de nos ennemis de classe, et il sert déjà à faire taire leurs revendications et les opposants au gouvernement. Alors, quelle solution avons-nous? Le capitalisme nous a plongés dans un bourbier sans fond. Eh bien, nous ne connaissons pas d'autre voie que de renverser le capitalisme et d'en défendre la perspective parmi les travailleurs. Alors certes, ce n'est pas très concret, ni très pratique, en tout cas c'est ce qu'on nous répond, peut-être, mais il n'y a pas d'autre solution. Parce que le danger, il ne vient pas de l'extérieur, d'Afrique ou du Moyen-Orient, il ne vient pas de telle ou telle religion, de telle ou telle communauté. Il vient de l'intérieur de ce système économique qui engendre chômage, inégalité, injustice, délinquance, guerre. Un monde où 67 familles... Un monde où 67 familles possèdent l'équivalent de ce que ont pour survivre 3,5 milliards d'êtres humains. Un monde où l'Afrique et le Moyen-Orient sont des Eldorados pour les capitalistes, mais des enfers pour leur population. Un tel monde ne peut qu'engendrer des monstruosités. Le capitalisme est en faillite au bout du rouleau, et on le voit, le règne de la bourgeoisie, c'est non seulement l'exploitation et la dictature des actionnaires sur la société, mais c'est aussi cette barbarie qui se répand partout dans le monde et qui atteint maintenant Paris et le cœur de l'Europe. Alors on ne se débarrassera de cette barbarie qu'en prenant le mal à la racine, c'est-à-dire à la domination de ce système économique fou. Alors pour un monde débarrassé de l'obscurantisme, de l'injustice, nous ne pouvons que poursuivre notre combat pour renverser le capitalisme et bâtir une société communiste, la seule issue pour l'humanité. Alors l'unité nationale, vous savez, celle qu'on voit là, n'est pas due au hasard. Elle rassemble en fait tous les partis qui, de l'extrême droite à la droite et au PS, sont fondamentalement au service de ce système, au service des intérêts de la classe sociale qui domine la société, la classe capitaliste. Sur les questions de la guerre comme sur les questions économiques, ils ont tous la même politique, celle dictée par les intérêts des capitalistes et des banquiers. Ce n'est toujours pas un hasard si, depuis des dizaines d'années de crise économique, marquée par un chômage ascendant, une misère croissante, tous les gouvernements ont eu la même politique, celle qui consiste à vider les caisses publiques pour mettre les impôts collectés dans les poches des travailleurs et des retraités, des couches populaires, à la disposition des entreprises. Celle qui consiste à donner les moyens au patronat d'aggraver encore et encore l'exploitation des travailleurs. Cette unité nationale, on la retrouve déclinée au niveau régional dès qu'on parle de ce qui est important, des budgets et de leur utilisation. Là aussi, du FN au Parti Socialiste, en passant par la droite, tous sont d'accord pour une chose, c'est mettre les institutions et les budgets publics au service du patronat et des entreprises. Alors pour parler régional, à droite, dans cette élection, vous avez Virginie Calmels, ex-patronne d'Endemol, qui émarge au conseil d'administration d'Euro Disney, et qui revendique ouvertement de représenter le monde des entreprises dans la campagne. Elle reprend tous les thèmes chers à son courant, chers au patronat en fait. Elle veut, dit-elle, libérer les entreprises de tout carcan réglementaire, et trouve que la gauche ne donne pas assez d'argent au patronat. Ainsi, elle trouve que trop d'argent public est dépensé en frais de personnel dans les régions, et que c'est cela qui limite les capacités de subvention des régions au patronat. Pourtant, côté entreprise, la gauche n'est pas en reste. Le candidat Alain Rousset, député Parti Socialiste, qui évoque toutes les mesures anti-ouvrières du gouvernement, qui est aussi président sortant de la région Aquitaine, vante à longueur de médias sa politique en faveur des entreprises. Il en a fait même un thème de sa campagne, voulant, dit-il, créer un écosystème favorable entre institutions et entreprises pour mettre les budgets publics à disposition du patronat. Il faut dire que, mine de rien, les budgets régionaux représentent chacun un petit magot de plusieurs milliards d'euros. Et pour la région qui nous concerne, c'est 2,8 milliards qu'ils aspirent tous à gérer, à distribuer en subventions et en marché public aux entreprises. Alors bien sûr, pour faire passer la pilule, l'argument utilisé par la gauche ou par la droite, c'est de dire que c'est au nom de l'emploi. C'est un mensonge, et un bien piètre mensonge, parce que dans les trois régions du Sud-Ouest, l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes, mais aussi comme dans toutes les régions du pays, année après année, subvention après subvention, million après million empochés par le grand patronat, le chômage s'envole. Ici, 489 000 travailleurs sont en chômage complètement ou partiellement. Et c'est en hausse de 8,5% sur les 12 derniers mois de l'année. Et c'est une vraie catastrophe pour des centaines de milliers de familles. Dans la réalité, les politiques d'aide aux entreprises, comme les politiques nationales ou régionales, elles n'ont aucun effet sur l'emploi. Par contre, elles servent aux entreprises à vider les caisses publiques pour remplir les poches des actionnaires. Le système des subventions permet en effet aux entreprises de mettre les régions en concurrence les unes avec les autres. Et elles ne se privent pas, avec la complicité des politiciens en place, d'exercer un véritable chantage à l'emploi. L'installation ou le maintien d'une activité dans telle région au lieu d'une autre contre le plus d'argent public possible. Alors juste deux exemples. Le premier, c'est Turboméca. Alors c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, mais ça fait partie de la grande région. Dans les Pyrénées-Atlantiques, Turboméca a touché 35 millions d'euros de la région et des collectivités locales pour la modernisation de l'usine, de son usine à Bordes, à côté de Pau, au travers d'un plan productivité. Un plan productivité, vous savez, c'est comment faire plus de bénéfices aux salariés en place. Et 35 millions d'euros de subventions, cela n'a fait qu'arrondir un peu plus les profits de la maison mère, qui est Safran en fait. Safran, c'est une entreprise qui fait 1,3 milliard d'euros de bénéfices chaque année. Et puis plus près d'ici, que dire des repreneurs de Eliez en Poitou-Charentes, qui soi-disant pour sauver les emplois ont touché 5 millions d'euros de la région avant de mettre la clé sous la porte et de disparaître avec la caisse. Alors dans ce système, les entreprises sont toujours, toujours gagnantes. Pour les travailleurs, par contre, c'est le chômage, ou la menace du chômage, avec en prime la dégradation des services publics, parce que les caisses sont vides, et donc c'est la santé, l'éducation, le transport qui paient la note. Quant aux entreprises, de toute façon, elles n'embauchent pas en fonction des subventions, parce qu'elles finissent toujours par les toucher, mais en fonction du marché et du rapport de force entre travailleurs et capitalistes. Un rapport de force qui permet aujourd'hui au patronat d'en demander toujours plus aux travailleurs sans embaucher. Nos listes Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs dans ces élections régionales seront donc les seules qui permettent de rejeter clairement tous ces politiciens qui n'aspirent qu'à gérer les affaires de la bourgeoisie. Elles sont les seules à défendre spécifiquement les intérêts matériels et politiques des travailleurs. Car il ne faut pas considérer cette élection comme une élection locale. Les programmes régionaux, les discussions sur les TER, la LGV, le poids relatif des capitales régionales qui seraient défavorisées vis-à-vis de Bordeaux, ne sont que des écrans de fumée que les politiciens utilisent pour ne pas subir au niveau régional le discrédit de leur parti au niveau national. Et au soir du premier tour, tous ces pseudo-programmes régionaux seront bien vite oubliés et tout le monde discutera de ce qu'ont exprimé les électeurs vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de la droite ou du FN. Il faut donc que les travailleurs et les électeurs des couches populaires utilisent ces élections pour prendre la parole, exprimer leurs revendications contre le chômage, contre les licenciements, contre les bas salaires et les pensions bloquées. Et il faut rejeter dans les responsables de cette situation, le grand patronat qui exige et le gouvernement qui exécute, comme il faut rejeter tous les partis dont l'objectif est simplement de gérer le système à la place de leurs concurrents. Il faut que les travailleurs conscients montrent aux leurs qu'un courant parmi eux existe, un courant qui n'est pas démoralisé et qui compte toujours sur les luttes sociales de son camp comme le seul moyen pour le monde du travail de sauver sa peau. Alors ça, c'est d'autant plus important que l'offensive des capitalistes contre les travailleurs est sans précédent, tant par sa longueur que par son intensité. Le capitalisme est en crise permanente depuis des dizaines d'années. Cette crise n'a fait que parachever le caractère parasitaire de la bourgeoisie. Depuis longtemps, les profits de la classe capitaliste ne progressent plus par un marché qui se développerait, mais parce que la classe capitaliste pille les richesses accumulées par la société et que les gouvernements successifs organisent systématiquement ce pillage. Prenez l'endettement des hôpitaux. Chaque année, les banques détournent 2,5 milliards d'euros des budgets des hôpitaux au titre d'une dette que les banques ont elles-mêmes fabriquée de toutes pièces avec la complicité des gouvernements. 2,5 milliards d'euros qui manquent pour les malades et que les personnels hospitaliers payent aussi, avec la dernière remise en cause par exemple de leurs horaires, mais aussi avec le sous-effectif permanent. 2,5 milliards qui par contre contribuent aux bénéfices des banques. À l'hôpital, ce ne sont plus les malades qui sont soignés, mais les banquiers. Et il en va de même du budget de l'État et des cadeaux toujours plus grands faits au patronat. Le record des cadeaux a sans doute été battu par la gauche au pouvoir avec le crédit impôt compétitivité emploi et le pacte de responsabilité. L'année dernière, le dispositif était dimensionné à 20 milliards d'euros. 30 milliards pour cette année et ce sera 40 milliards pour l'année prochaine. Toujours au nom de l'emploi, le gouvernement subventionne ainsi directement les entreprises. Les entreprises qui suppriment elles-mêmes des emplois par milliers. PSA, par exemple, Peugeot, ils ont touché, sur ces deux dernières années, 140 millions d'euros de subventions, alors que ce groupe a supprimé dans le même temps 15 000 emplois. La Poste, elle a reçu en 2014 350 millions d'euros, alors que les effectifs déclinent chaque année de plusieurs milliers d'emplois. Alors on le voit, les emplois ne sont qu'un prétexte de la propagande. Ces cadeaux ne servent qu'à alimenter les caisses des actionnaires, de la bourgeoisie. Charge à l'État de racketter la population, de lui faire les poches pour financer cela. Pour financer le CICE 2016, les 40 milliards, les 30 milliards de l'année prochaine, le gouvernement a prévu d'économiser 7,5 milliards sur les budgets de la protection sociale. Vous savez, les budgets de la protection sociale, ce sont les allocations familiales, le chômage, la sécurité sociale. Et comme ça ne suffit pas de prendre directement dans les poches des couches populaires, eh bien le gouvernement a prévu de rogner sur les dotations aux collectivités locales, les budgets des municipalités notamment, autant de services publics en fait. Et puis il fait augmenter les impôts locaux, et ceux des retraités en particulier. S'il a reculé sur le vol qu'il allait opérer dans les poches des handicapés en défalquant de leur misérable allocation les intérêts de leur livret A, c'était son plan, c'est uniquement parce qu'à la veille des régionales, cela faisait mauvais genre. Alors vraiment, il faut que chaque retraité, chaque handicapé, chaque étudiant pauvre le sache. Si demain la vie sera encore plus difficile, s'il faudra se serrer la ceinture, baisser le chauffage, restreindre les dépenses d'alimentation, c'est pour que leur argent aille alimenter les caisses d'entreprises florissantes et les coffres-forts de leurs actionnaires multimilliardaires. Voilà la vérité, voilà la politique cynique et révoltante de ce gouvernement qui ose se dire encore socialiste. Alors la bourgeoisie, elle augmente également ses profits en diminuant la part qui revient aux travailleurs en aggravant leur exploitation. Et c'est le sens de toutes les attaques contre les droits des travailleurs pour plus de flexibilité, plus de précarité. Le prochain chantier du gouvernement, vous le savez, c'est le Code du travail. Le patronat trouve que ces quelques règles qu'il respecte quand ça lui chante sont encore trop contraignantes. Le patronat veut faire ce qu'il veut, entreprise par entreprise, en toute légalité, sans avoir à se justifier, que ce soit sur le temps de travail, les pauses, les salaires, les travailleurs intérimaires. Ils veulent par exemple, c'est la ministre du Travail qui l'a dit, pouvoir nous faire travailler 60 heures par semaine pendant une période donnée, sans autorisation préalable. Quel progrès! Mais visiblement, le menu des discussions promises par le gouvernement sur le Code du travail a ouvert l'appétit du patronat. Il en redemande déjà. Ainsi, une brochette de patrons, parmi lesquels on trouve Siemens et Roche, de très grandes entreprises, a remis sur la table la disparition du CDI, parce que selon eux, le CDI complique les licenciements et cela retiendrait les trusts d'investir dans le pays, qui ne serait pas encore assez attractif pour les actionnaires. Encore une fois, ils nous disent sans vergogne que s'il y a du chômage, c'est parce que les patrons ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Juniac, le patron d'Air France, a même déclaré que l'âge minimum de travail à 16 ans n'a pas toujours été ainsi et que cette limite n'est ni acquise ni définitive. Et Dassault, lui, il ne veut plus de congés payés. Alors oui, c'est un fait. Sous le capitalisme, rien n'est jamais acquis aux travailleurs. Tant que les capitalistes seront au pouvoir, tant qu'ils posséderont les usines, les banques, les moyens de production, ils seront toujours à l'affût pour reprendre ce qu'ils ont cédé dans le passé sous la pression des luttes. Alors face aux attaques qui se préparent, face au front uni du patronat et du gouvernement, face au camp du patronat, les travailleurs ne pourront compter que sur leur unité dans le combat collectif de leur camp. Alors aujourd'hui, on a parlé d'Air France. Vous savez, il y a eu des manifestations en solidarité aux travailleurs d'Air France sanctionnés et licenciés. Eh bien, ça vaut le coup de revenir sur Air France parce que cette mobilisation a été riche d'enseignements. D'abord, si certains pensaient que les classes sociales avaient disparu, que la lutte de classe était un sujet historique, les événements d'Air France se sont chargés de remettre les pendules à l'heure. Tous les partis bourgeois, du FN au PS, ont aboyé contre les travailleurs qui se défendaient et ils ont dit ce que la bourgeoisie voulait qu'il soit dit. La justice, la police, rappelez-vous, sur ordre du ministère de l'Intérieur, ont considéré les travailleurs en lutte pour leur emploi comme des criminels, comme des bandits, en les arrêtant chez eux à 6h du matin. Il y a 15 jours, la direction d'Air France a licencié 5 salariés et mis à pied 11 autres. Licenciés et sanctionnés pour avoir défendu leur travail. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore l'étape du tribunal correctionnel. Parce que le gouvernement et le patronat veulent faire un exemple contre ceux d'Air France parce qu'ils ont osé se défendre. C'est pourquoi nous devons, nous tous, travailleurs, nous sentir solidaires et défendre ceux d'Air France. Parce que les défendre, c'est nous défendre. On a pu voir lors du conflit, parmi les nôtres, que la solidarité, la sympathie à l'égard des travailleurs d'Air France a été spontanée comme un réflexe de classe. Et oui, lors des conflits, les positions des uns et des autres apparaissent clairement. Le Front National, il faut le faire savoir à tous ceux qui seraient tentés de voter pour lui, s'est rangé, comme le PS, comme la droite, bien droit derrière la direction d'Air France. La nièce Le Pen a accusé le gouvernement de ne pas avoir été assez dur avec les travailleurs en n'envoyant pas les CRS. Elle a accusé les salariés d'avoir voulu lâcher les directeurs. Le FN, pas même au pouvoir, montre déjà le camp qu'il a choisi, celui de la matraque pro-patronale. Alors oui, les travailleurs d'Air France qui se défendent ont raison, mille fois raison. La violence dans cette société n'est pas du côté des travailleurs, elle est patronale. Ce sont les patrons qui ont jeté à la rue et condamné à la misère des millions de travailleurs. Ce sont eux qui ont brisé les familles, qui ont provoqué nombre de suicides en licenciant et en fermant les usines. Alors ce que nous souhaitons, c'est que la colère que les travailleurs d'Air France ont exprimée devienne collective et entraîne toute la classe des travailleurs. À la lutte de classe que le patronat mène contre le monde du travail doit répondre avec ses propres armes. À Air France, le 16 novembre, au nom de l'état d'urgence, l'intersyndicale a fait le choix d'annuler la journée de grève et le rassemblement devant le CCE prévu pour le 19. Et on en parle parce que c'est des choses qui reviennent dans plusieurs entreprises. Mais pourquoi, au nom de l'état d'urgence, faudrait-il mettre de côté la défense des travailleurs qui vont se retrouver sans ressources ? Et au nom de la prétendue unité nationale, comment oublier que la direction veut supprimer presque 3000 emplois? La direction, elle n'a pas changé ses plans. Pas plus aujourd'hui qu'hier, elle n'imagine de prendre sur ses profits qui ont explosé ces derniers mois, ni de revenir sur les licenciements. L'unité nationale, c'est l'unité derrière la bourgeoisie et ses représentants. C'est aussi une tentative pour faire baisser la tête à ceux qui contestent la politique gouvernementale sur le terrain économique et social. Alors pas question de marcher dans cette direction. Alors le MEDEF, on l'a dit, il a son programme, il a ses revendications, il a un plan pour maintenir ses profits, et puis il a des partis qui l'appuient dans son offensive consciente contre les travailleurs. Eh bien le monde du travail, il doit en faire autant. Il doit avoir son programme, il doit avoir son plan pour protéger ses conditions de vie. Au patronat qui licencie à tour de bras, les travailleurs devront opposer l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, que l'on soit en CDI, intérimaire, CDD, et tout cela sans diminuer les salaires. Il y a assez d'argent dans les coffres-forts du patronat pour financer tout cela. Face à l'augmentation des prix, des taxes et des impôts, nous devons exiger des augmentations générales de salaire. Et pour qu'elles ne soient pas immédiatement grignotées par l'inflation ou par les augmentations d'impôts, il faudra les garantir en imposant que les salaires, les allocations, les pensions de retraite suivent automatiquement la hausse des prix et des impôts. À tous ces politiciens et ces patrons qui nous jettent à la figure que ces revendications seraient utopiques ou délirantes, nous répondons que eux n'estiment ni utopique ni délirant de rétablir le travail des enfants, de prôner la retraite à 70 ans, la suppression du SMIC ou des congés payés. Les patrons estiment avoir le droit moral de demander tout et n'importe quoi pour maintenir leurs profits. Eh bien nous estimons que les travailleurs doivent se sentir le droit moral de revendiquer des mesures élémentaires, non pour maintenir les profits de quelques parasites, mais pour permettre aux travailleurs qui font tourner toute la société de pouvoir continuer à vivre dignement. Et c'est pas l'argent qui manque. Tous les jours, des milliards sont joués en bourse. On a appris la semaine dernière que l'américain Pfizer allait mettre sur la table 150 milliards pour racheter un concurrent et transférer son siège en Irlande pour la simple raison qu'il veut payer moins d'impôts. Il y a quelques semaines, le numéro 1 de la bière a dépensé 112 milliards pour acheter le numéro 2. 112 milliards, vous savez, c'est le salaire de 2 millions de travailleurs pendant un an. Alors oui, l'argent existe, il coule à flot, et quand il ne sert pas à maintenir le train de vie de quelques milliardaires, il nourrit la spéculation financière. Pour imposer l'interdiction des licenciements, pour préserver le pouvoir d'achat des classes populaires, la seule solution sera de publier au grand jour la réelle comptabilité des grandes entreprises, la vraie, pas la version bidonnée qu'on donne aux syndicalistes ou aux médias. Ce n'est qu'ainsi que les travailleurs pourront faire la démonstration que tout est mensonge, que l'argent existe bel et bien, et que rien ne justifie les licenciements. Ce programme que nous défendons, interdire les licenciements, indexer les salaires, le contrôle des comptes, il ne sera jamais le fruit d'une mesure gouvernementale. Il ne verra le jour que s'il est imposé par en bas, par la force, par les mobilisations, la colère collective de la classe ouvrière. Et le problème actuel des travailleurs, ce n'est pas de savoir si ces explosions de colère vont avoir lieu. Elles vont avoir lieu. Le problème, ce sera de faire en sorte que ces mobilisations soient victorieuses et ne se laissent pas emmener sur une voie de garage comme en 68 ou en 36. C'est pourquoi populariser aujourd'hui ce programme, le faire connaître, convaincre autour de nous de sa nécessité, ben c'est cela qui prépare l'avenir. Alors dans cette élection régionale, nous nous présentons pour dire, contre tous ces politiciens défenseurs de l'ordre bourgeois, que la société est organisée en deux classes. Une classe dominante et une classe exploitée. Deux classes aux intérêts opposés dont la situation respective est déterminée par un rapport de force. Lorsque la classe ouvrière se fait craindre, elle peut arracher des avancées. Lorsqu'elle ne se bat plus, elle recule fatalement et avec elle, tout le reste de la société. Nous nous adressons aux travailleurs conscients de cela pour qu'ils s'expriment dans cette élection, pour qu'ils fassent entendre le camp des travailleurs, le camp des travailleurs conscients d'avoir à mettre en avant les revendications immédiates, mais conscients aussi d'avoir à mettre en avant les valeurs de la classe ouvrière et les perspectives qu'elle porte en elle de révolutionner la société. Car oui, le camp des travailleurs, la fraction des travailleurs conscientes, a toujours porté des valeurs propres aux exploités. Solidarité, lutte contre l'exploitation, émancipation sociale, progrès, lutte contre les superstitions, émancipation des femmes, internationalisme, telles sont les valeurs du mouvement ouvrier qui s'oppose à l'individualisme, la concurrence, le chacun pour soi et le nationalisme. Les valeurs du mouvement ouvrier ne sont pas seulement un bel idéal, elles sont aussi une nécessité, car ce sont ces valeurs, ces idées, qui permettent vraiment de résister à l'exploitation, d'empêcher réellement le sort de chacun de s'aggraver. Ce capital politique du mouvement ouvrier, il a été peu à peu dilapidé par le PCF, qui en devenant stalinien est aussi devenu nationaliste, et a remplacé le drapeau rouge par le drapeau tricolore, et a remplacé l'international par la Marseillaise. Le PC a repris à son compte la contre-vérité qu'il y a toujours eu des patrons et qu'il y en aura toujours. Il a défendu l'URSS stalinienne dans ce qu'elle avait de pire et soutenu le Parti socialiste quand ce parti a entrepris de faire payer la crise aux couches populaires dans les années 80 et 90. Le PCF a ainsi cultivé la démoralisation et contribué à discréditer les idées communistes. Alors, sans attendre les luttes qui feront de nos idées une force capable d'ébranler la société bourgeoise, nous devons nous battre à nouveau pour diffuser ces idées internationalistes et les valeurs propres au mouvement ouvrier parmi les travailleurs. À ce titre, la question des migrants est significative. Chaque semaine, des dizaines d'enfants, de femmes et d'hommes meurent pour essayer de traverser la Méditerranée. Mais pour ne pas donner prise aux critiques de la droite et de l'extrême droite, le gouvernement socialiste barricade les frontières et aggrave les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes. Tout est ignoble dans cette politique. Ce tri qui est fait entre les vrais réfugiés qu'on pourrait accepter et les migrants économiques qu'il faudrait refuser. Ces centres appelés hotspots qui sont une façon de sous-traiter les migrants aux pays pauvres, comme à la Turquie qui vient de recevoir 3 milliards pour empêcher les migrants de partir vers l'Europe. Alors oui, face à ces politiques cyniques, nous devons exprimer sans relâche notre solidarité à l'égard des migrants et affirmer notre revendication, la liberté de circulation et la liberté d'installation. Et nous devons chercher à faire des migrants, non seulement des frères en humanité, mais également des frères de lutte, car les migrants intégreront la classe ouvrière, et la classe ouvrière ne peut se battre que si elle est unie. Alors, si nous faisons le choix de défendre une politique qui se place exclusivement sur le terrain de la classe ouvrière, c'est qu'elle est la seule classe qui peut s'attaquer à la racine des problèmes, à l'organisation capitaliste de la société. Mais pour en être capable, la classe ouvrière doit non seulement retrouver le chemin de la combativité, mais aussi de la conscience de classe. Faire en sorte que cette conscience de classe redevienne la boussole des travailleurs est le fond de notre politique. C'est notre raison d'être, en essayant d'exprimer dans toutes les situations politiques, dans tous les combats, une politique propre aux travailleurs. Et c'est tout le sens de notre participation en général aux élections. Le problème n'est pas d'être entendu de ceux qui gouvernent. Ceux qui gouvernent se moquent de ce que les électeurs peuvent dire dans les élections. Pour nous, le problème est d'être entendu du monde du travail. Il s'agit de montrer aux nôtres qu'une fraction ne se résigne pas et qu'il y a un camp auquel ils peuvent se rallier s'ils n'acceptent pas la situation. Donc le problème, c'est de s'adresser aux nôtres et de leur montrer qu'une fraction d'entre eux ne se résigne pas. Alors on le sait, en déchirant ou en brûlant leurs cartes d'électeurs, en affirmant qu'ils ne marchent plus dans tout ce cirque, certains croient se venger des partis qui les ont trahis et exprimer leur opposition radicale au système. Bien, il faut qu'on leur dise qu'ils se trompent, parce qu'en s'abstenant, en fait, ils se taisent. Et pire, l'abstention donnera d'autant plus de poids à tous ceux qui voteront pour le PS, pour la droite ou le FN. Et au bout du compte, ces abstentionnistes seront récupérés par les vainqueurs. Et puis il y a le Front National. En votant FN, un certain nombre de travailleurs croient avoir trouvé un moyen de sanctionner la gauche et la droite. Eh bien, eux aussi, ils se trompent. En votant FN, ils vont voter pour les mêmes empires. Les mêmes car le FN, comme la droite et la gauche, ne veut que servir la bourgeoisie, se mettre à son service. On l'a vu avec Air France. En pire, car avec une dose supplémentaire d'idées xénophobes et racistes. Le FN est devenu le dernier argument électoral du Parti Socialiste. Il faudrait voter pour le PS simplement pour faire barrage au FN, alors que c'est le PS qui, en faisant la même politique que la droite, en laissant le chômage monter à de nouveaux records, a fait le lit du FN. Alors si on veut sanctionner les politiciens pour ce qu'ils sont, des hommes au service du patronat, il faut rejeter tous les partis, du FN à la droite et au PS. Et cela, ce n'est qu'avec le bulletin de vote Lutte ouvrière qu'on peut le faire. Et puis la réalité, enfin vous le savez, c'est que pour changer la vie des travailleurs, il faut surtout inverser le rapport de force entre les travailleurs et la bourgeoisie. Et cela, seules les luttes collectives, les luttes sociales peuvent le faire. Mais en attendant, ben, il y a les élections, et les élections, ça peut servir à s'exprimer. Eh bien, il faut que les travailleurs les utilisent, non pas pour faire de la politique politicienne, mais pour faire entendre leurs intérêts contre ceux du patronat, pour affirmer leur perspective contre celles qui veulent nous imposer, contre celles que veulent nous imposer les porte-paroles de la bourgeoisie, et pour se regrouper avec un bulletin de vote. Y compris en participant à ces élections, nous militons en fait pour préparer l'avenir. La lutte de classe n'est pas une invention des communistes révolutionnaires. Pour les exploiter, les opprimer, elle passe par des hauts et par des bas. Alors je l'ai dit, nous sommes dans un bas, nous sommes à contre-courant, c'est sûr. Dans ces élections, nous ferons un petit résultat. Mais c'est précisément lorsque les idées progressistes et révolutionnaires sont les moins en vogue, c'est lorsque la société va dans le sens contraire qu'il est important de les maintenir. Parce que les travailleurs ne resteront pas indéfiniment l'arme au pied. C'est pour préparer ces moments-là, les périodes où les travailleurs chercheront le chemin pour un avenir meilleur, qu'il faut aujourd'hui reconstruire, aujourd'hui continuer à lever le drapeau communiste. Nous avons confiance dans la classe ouvrière, confiance dans les exploités, confiance dans l'humanité. Nous sommes convaincus que le capitalisme n'est qu'une étape dans l'histoire de l'humanité et qu'un jour nous en tournerons la page pour en écrire une nouvelle autrement plus enthousiasmante. Alors ne craignons pas d'être minoritaires, portons haut nos convictions et soyons-en fiers. Et au travers de ces élections, continuons d'avancer dans la voie qui est la nôtre, celle de participer à la reconstruction du camp des travailleurs. Alors, aidez-nous à faire entendre la voix de ce camp. Votez et faites voter pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.